السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ فرير سور الإسلام، nous remercions Allah Azza wa Jal qui dans sa clémence, sa grâce, nous accorde la possibilité d'être réunis en ce jour dans cette masjid Nour al-Islam pour consacrer un peu de temps à apprendre un peu plus notre religion. Et notre objectif, l'objectif de ce rassemblement n'est pas d'apprendre des choses nouvelles, ce n'est pas d'apprendre une science que nous ne connaissons pas. L'objectif du rassemblement de cette intervention bi'idhnillahi wa bifadlihi wa karamihi wa tawfiqi, c'est d'essayer de consolider notre relation avec Allah Azza wa Jal par le biais d'une action que nous, entre guillemets, que nous maîtrisons déjà par l'intermédiaire des acquis spirituels que nous avons intégrés bi'idhnillah, que nous avons appris à la madrasa, nous avons appris avec nos parents et que nous avons eu l'habitude donc de mettre en pratique. Et si nous sommes là après la salat de dhuhr un dimanche en plus, c'est que la salat elle a une place pour nous. La salat elle a une place dans nos cœurs et nous y attachons beaucoup d'importance. Et d'autant plus que dans le mois de Ramadan, certains savants expliquent que parmi les manifestations de la rahmat d'Allah, de la clémence d'Allah durant ce mois béni, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal guide ton cœur. Lorsqu'Allah déverse sa rahmat sur ton cœur, et Allah te donne la possibilité de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Ainsi, durant ce mois béni, on va trouver beaucoup plus de gens présents à la masjid, beaucoup plus de gens en train de lire le Coran. On aura plus de facultés, de facilités à nous éloigner du haram. Et tout ça, ça découle de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah aime une personne, Allah peut certainement lui accorder des choses qui lui sont chères. Depuis 2 ans, 3 ans, tu demandes à qu'Allah m'accorde un enfant, qu'Allah me permettent de trouver une épouse, qu'Allah m'accorde un emploi, qu'Allah m'accorde une stabilité dans mon couple, dans ma famille. Allah peut t'accorder ces choses. Et si Allah te l'accorde, on va dire que tes doigts auront été exaucés, auront été... Mais la plus grande manifestation de clémence, de rahmat d'Allah Azza wa Jal, c'est lorsque ton Seigneur te guide vers le droit chemin. Parce que être guidé sur le droit chemin, ikhwani fillah, c'est vraiment la consécration pour un musulman. Et preuve que c'est la consécration, que c'est le vœu le plus cher pour nous tous, c'est que nous souhaitons tous mourir avec la foi. On est d'accord là-dessus? Là-dessus, il n'y a pas de divergence d'opinion. Il n'y a pas de madhab. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de certains moulissables qui disent ça, d'autres qui disent ça, d'autres qui pensent que ça c'est important, d'autres c'est pas, ça c'est pas important. Non. Là-dessus, il y a unanimité sur le fait que nous voulons tous mourir avec iman. Avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et que nous souhaitons tous passer ces étapes de la tombe de l'au-delà et d'accéder au Jannah. Et que dans le paradis, on aimerait y être avec notre épouse, avec nos parents, avec nos enfants. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. C'est le vœu le plus cher pour chaque musulman. On est d'accord? On est d'accord. Quand vous allez au Hajj et que vous êtes présent à la fête lors du Wukuf, le premier doua qui doit sortir de votre cœur, je ne dis pas de votre langue, c'est de votre bouche, ce n'est pas le doua que vous avez prévu de faire, vous avez pris comme note de votre portable ou sur un carnet. Le premier doua qui doit émerger, qui doit ressortir de votre cœur, c'est « Ya Allah, garde-moi sur le droit chemin jusqu'à la mort. Ya Allah, ainsi que ma femme, mes enfants, mes parents, accorde-nous la mort avec l'iman et réunis-nous dans le Jannah. » Ça, ça doit être le doua prioritaire, parce qu'il n'y a pas plus important que ça. Il n'y a pas plus... Il n'y a pas vie plus accomplie que celle où on s'est consacré pour l'adoration d'Allah et on a quitté ce monde avant qu'Allah ait été satisfait de nous. Et la plus grande preuve, c'est justement ce qu'on va essayer d'évoquer, qui avait été expliqué l'année dernière, mais on va juste rafraîchir un peu nos informations. Quand Allah Rabbul Izzah nous demande de lire la surat al-Fatiha de la salat, il y a un doua que nous répétons à chaque Fatiha, c'est « Ihdina surat al-mustaqim ». Quand on dit « Ihdina surat al-mustaqim », nous demandons « Oh Allah, guide-nous vers le droit chemin ». Et c'est le doua que le musulman lit le plus souvent dans une journée. Il n'y a pas une invocation
que tu feras plus fréquemment que Ihdina as-Sirata al-Mustaqim durant une journée, durant une semaine, durant un mois et durant toute ta vie. Parce que être guidé sur le droit chemin, quand Allah t'amène vers lui, c'est la consécration pour un croyant. Donc notre objectif dans cette intervention, c'est d'essayer de raffiner notre relation avec Allah Azza wa Jal par le biais d'un acquis, par le biais de quelque chose que nous mettons en pratique, c'est l'accomplissement de la salat. Et sachant que durant ce mois, on va dire presque l'intégralité, presque 100% des musulmans donnent de l'importance à la salat. Les gens sont présents, les masajids sont plus ou moins remplis. Il nous manque juste cette touche finale, il nous manque juste, et je parle de touche finale, mais j'aurais plutôt dit, il nous manque ce socle, cette base de la salat qui est la relation du cœur avec Allah Azza wa Jal. Dépasser le gestuel, dépasser la belle lecture, dépasser l'admiration quand on a un bon qari qui lit, et l'exaspération ou la lassitude, na'oudhu billah, lorsque la lecture est jugée, na'oudhu billah, entre guillemets, moyenne, et qu'elle ne correspond pas à notre idéal en termes de lecture et de naramat et d'intonation. Dépasser un peu ce qui constitue malheureusement les piliers de nos prières. La belle lecture et le gestuel qui est parfait, et le respect des masa'il fiqhiyya, le respect des règles de jurisprudence. Quoique ces choses-là, ça fait partie bien sûr de la salat, sans les règles de jurisprudence, ainsi de suite, il n'y a pas débat là-dessus. On a tous compris que ces choses-là sont indispensables, mais cela n'est pas tout. Nous, on a considéré que les règles de jurisprudence, le gestuel, la belle lecture, ça fait que notre prière, elle est kamila. Elle est complète et donc obligatoirement acceptée par Allah. C'est une prière qui est validée. Mais on a oublié que la relation du cœur avec Allah Azza wa Jal, elle prime. Elle est au-dessus de tout ça. Ainsi, une personne qui a des problèmes de santé et qui ne pourra pas faire le ruku' correctement, ou une personne qui, pour un quelconque problème, ne peut pas se prosterner et donc il doit faire la salat sur une chaise et essayer d'imiter le geste au mieux du ruku' et du sujoud. Est-ce que ça veut dire que cette salat-là, il y a un manque dedans? Elle est acceptée par Allah. Parce que la personne aura fait ce qu'elle pouvait. Elle l'a fait en fonction de ses capacités. Donc le problème ne se limite pas au gestuel. Une personne n'a pas trouvé d'eau dans un endroit, elle a fait le tayammum. Est-ce qu'on veut dire que la prière, elle est moins bonne que si elle avait été faite avec de l'eau, ainsi de suite? On a compris que le fait qu'il y ait un petit manquement dans le kayfiyya, voilà, dans laquelle la façon de faire, ça ne diminue pas la valeur de la salat. Par contre, ce qui va diminuer réellement la salat, c'est lorsque les conditions sont réunies pour que tu accomplisses une salat, on va dire normalement comme nous, dans cette masjid, mais que lorsque tu dis Allahu Akbar, ton cœur s'évade et ton cœur n'est pas avec Allah Azza wa Jal. Ça, ce serait dommage. Ça serait vraiment un manquement de nos prières. Et il faut réaliser que dans la grande sagesse d'Allah Azza wa Jal, la prière était prescrite pour chaque croyant 5 fois par jour. Pendant que le hajj, c'est une fois, au minimum, durant notre vie. Le ramadan, le sawm de ramadan, c'est un mois, c'est-à-dire 29 ou 30 jours, c'est-à-dire 30 jeûnes, durant une année. Et ça se répète. La zakat, c'est une fois par an, mais ça se répète tous les ans. Et chaque acte d'adoration a une kayfiyya, un aspect extérieur. Il y a une façon de l'accomplir, mais il y a le batin de l'action. L'objectif recherché. Différence entre la zakat, le hajj et les prières, ainsi que le mois de Ramadan, ce sont des actes d'adoration, bien sûr. L'objectif global de l'acte d'adoration, c'est de développer at-tadhallul wal khudu' lillah, la soumission totale à Allah Azza wa Jal. Quand tu vas au hajj, si Allah Rabbul Izzah te demande de marcher tel endroit jusqu'à tel endroit, de faire le sa'i, le safa marwa, même s'il fait 50 degrés, de faire le tawaf, même s'il y a beaucoup de monde, tu le fais. C'est le sacrifice qu'on fait pour Allah Azza wa Jal. C'est le ittiba'. C'est suivre l'ordre d'Allah Rabbul Izza. Quel est l'objectif recherché de la salat? C'est une soumission totale du corps et de l'esprit. Soumission du corps et de l'esprit pour Allah Azza wa Jal. Si le corps uniquement se soumet à Allah, et c'est quoi la soumission du corps? Ce sont les positions de la salat. La position debout, le ruku', la génuflexion, le raf'u min al-qiyam, min al-ruku', le fait de se relever, le sujoud, le tashahud et le qa'idat, les positions de la salat, ces positions-là, ce sont des signes d'obéissance. Allah te demande de rester en génuflexion alors que c'est une position qui est totalement inconfortable. Mais tu le fais pour Allah, c'est la soumission du corps. C'est le gestuel. Notre prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné que quand on prie, ben le regard doit être rivé vers le sol. Le fait de contrôler ton regard dans la salat, et qu'est-ce que je veux dire par contrôler notre regard, c'est de ne pas regarder les gens qui passent ou ne pas être attiré par autre chose. Ça, c'est la soumission des yeux. Le fait que nous devons écouter la lecture du imam, c'est la soumission des oreilles. Mais quelle est la soumission du cœur? Tout en sachant que ce qui compte le plus dans l'être humain, c'est le cœur. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit qu'il y a dans le corps de l'être humain une partie, si cette partie est saine, moudra, une partie si elle est saine, ben c'est tout le corps qui sera spirituellement dans la bonne voie. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a précisé que c'est Allah, que c'est le cœur, ou al-qalbu. Ainsi donc, si dans la salat, je me suis soumis à Allah par l'ensemble de mes membres, mais que mon cœur ne s'est pas soumis à Allah, c'est une prière qui est naqisa. C'est une prière où il manque quelque chose d'essentiel. J'allais dire quelque chose d'important. Non, pas quelque chose d'important. Il manque quelque chose d'essentiel. Parce qu'à partir du moment où dans ma prière, mon cœur ne se soumet pas à Allah Azza wa Jal, l'objectif final recherché par la salat ne pourra jamais être atteint. Et quel est l'objectif final, on fait ça? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat éloigne du turpitude et du blâmable. Turpitude, blâmable, on va dire c'est des synonymes. À notre niveau, on peut les considérer comme des synonymes. C'est normalement la prière, elle devient un rempart. Elle te permet d'avoir la force spirituelle. On ne parle pas de force physique. La force, ni de force mentale, ni de force psychologique. La force de foi, de iman, qui te permet de dire non au haram. Qui te permet de te détourner du haram. Ainsi, les ulama, les mufassirin, les muhadithin, tous les savants qui ont traité de la salat, qui ont parlé de la prière, disent que si tu veux savoir si ta prière a été validée, elle a été acceptée par Allah, elle a atteint son objectif, regarde ton comportement entre deux prières. Et normalement, en sortant d'une masjid, tu dois être un exemple de croyant dans le self-control spirituel, contrôle du regard, c'est-à-dire toutes les facettes du contrôle de soi qu'on avait dans la prière, on doit être capable de le garder en dehors de la salat. Ainsi, en sortant de la masjid, contrôler son regard, ça doit être quelque chose de tout à fait normal. Ne pas écouter ce qui est haram, normal. Ne pas dire n'importe quoi, de même dans la salat, on ne parle pas. On reste silencieux, autrement la salat ne compte pas. Mais pareil, à l'extérieur, on parle que pour dire du bien. Pas de riba, pas de bohtan, pas de namima, pas de kadib, pas de mensonge, ainsi de suite. Ça, c'est un signe que ta prière, elle a atteint son objectif. Et que ton cœur reste bercé par le dhikr Allah. Après la salat, ton cœur reste attaché avec Allah. Et que dans ton cœur, il y a un amal. Il y a un espoir. Il y a une attente. L'attente, c'est quoi? C'est la prochaine prière. Et que ce cœur attend quand il renouvelle son audit, son rendez-vous, sa rencontre avec Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un croyant dont les prières sont validées et atteignent leurs objectifs. Tanha, anil fahsha wal munkar. C'est-à-dire que la prière te purifie déjà de tes péchés. Et on connaît, c'est un hadith comme c'était l'année dernière, l'histoire de l'homme qui habite près d'un fleuve. Tout le monde connaît. Et qui s'y baigne 5 fois par jour. En fin de journée, il n'y a plus de péché. Pareil, après ces 5 prières, les prières nous lavent régulièrement des petits péchés. Donc déjà, nous, on est débarrassé des petits péchés. Mais en plus de ça, le cœur se soumet totalement à Allah Rabbul Izza 5 fois. Et le cœur s'imprègne de la lumière de la prière. Parce que la prière, c'est une lumière. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on avait, le dua, le hadith, c'est avant tout un hadith, et le dua qu'on avait cité en introduction l'année dernière, on avait dit que as-salatu nur. Vous vous rappelez de ça? La prière, c'est une lumière. La prière, c'est un lien avec Allah, mais la prière, elle te permet d'avoir un peu de lumière. Et donc, cette lumière, quand elle s'imprègne de ton cœur, elle te donne la force de iman, l'augmentation de foi, et justement la hikmat d'Allah, de le fait que la prière se répète 5 fois par jour, c'est que cette lumière-là, elle va se renouveler à chaque fois. Parce que, étant des êtres humains, avec nos occupations, avec notre vie professionnelle, et ainsi de suite, cette lumière-là ne peut pas rester parfaite. Elle ne peut pas nous éclairer autant durant toute une journée. Quand je sors de la prière de la masjid, j'ai une lumière très forte en moi. Mais au fur et à mesure que j'avance dans ce monde de fitna, dans le monde de péché, et que volontairement ou involontairement, j'entre en contact avec ce qui est interdit, cette lumière, elle va diminuer. Et ça, c'est normal. Parce que l'être humain ne peut pas rester à un stade de perfection. Le stade de perfection, c'est le niveau de qui ça dit ? Des malades, qu'à des anges. Mais quand la prière de Dhuhr est terminée, 2 heures après ou 2h30, peu importe, il y aura la nouvelle salat, salat de Asr. Et tu refais le plein de nour. Et ainsi de suite, pour le Maghrib, pour l'Isha, c'est toute la hikmah d'Allah dans la légifération des 5 prières, le fait que nous ayons ce rendez-vous régulier avec Allah Azza wa Jal. Du coup, on est parti direct dans le thème. Je pense que c'est mieux. On avait une introduction concernant l'importance du mois béni, mais rassurez-moi, ça a été fait la semaine dernière. Toutes les vertus du mois béni, c'est vraiment l'occasion, comme on a dit, le cœur penche vers les bonnes œuvres. Et nous venons automatiquement à la salat. Si une personne nous dit, ben viens, on va se promener, on va à tel endroit, on va monter un petit peu d'aller au haut de la plaine des Carpes, on va voir le volcan. Je dis, mais la namaz de Dhuhr, vous faites. En temps normal, un dimanche de joueur ordinaire, j'ai de la peine de dire un joueur ordinaire en dehors du mois de Ramadan, n'importe quel plan. Si par exemple, Irfan, il reçoit un appel, d'un joli bœuf, l'arrivé chez tel éleveur, on va voir si ça dépasse une tonne, on va voir immédiatement. Là, on va mettre tout de côté. J'extrapole, bien sûr. C'est-à-dire que nos cœurs, nous sommes des êtres humains. Si on est invité quelque part, un aliment ou autre chose, ça nous peine, ça ne nous affecte pas de ne pas faire la salat jama'a. On fera plus tard. On fera en rentrant à la maison. C'est parce que nous sommes des insans. Mais dans ce mois, ajib. Nos cœurs sont guidés et on est attiré par la mosquée. Et pour nous, il est inconcevable de rater une salat. Parce que tout ça, ça fait partie de la rahmat d'Allah durant ce mois. Il n'y a pas meilleure occasion également pour que nos cœurs soient unis avec notre Seigneur. Pas meilleure occasion pour obtenir son pardon. Pas meilleur mois pour obtenir l'acceptation de nos doigts. Pas meilleur moment pour renouveler son engagement avec Allah Azza wa Jal. Et justement, on revient vers l'essentiel. La meilleure des actions qui nous permet donc d'entretenir ce lien avec Allah Azza wa Jal, ce sont les prières, les salats. Dans un hadith Qudsi, qu'est-ce qu'on appelle un hadith Qudsi? Enfin, hadith Qudsi, c'est le prophète alayhi salatu wa salam rapporte d'Allah. Mais ce n'est pas pour autant un verset du Coran. Dans un hadith Qudsi, Allah Rabbul Izza explique que le croyant ne se rapprochera jamais de lui, d'Allah Rabbul Izza, d'une meilleure façon que mimmaftaratuhu alayhi, que par les obligations. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des actions extraordinaires, des actions complexes, énormes. Les arkan de l'islam, les piliers de l'islam, nos 5 salats, ça c'est une clé. Ça nous permet d'accéder à la clémence d'Allah, à l'acceptation d'Allah, à la baraka d'Allah. La baraka qui vient d'Allah. Ainsi, ikhwan fillah, cette salat, si on arrive à la maîtriser, si on arrive à l'accomplir de la meilleure des façons, c'est vraiment la consécration pour nous. La prière, comme on a dit, il y a l'aspect extérieur, la lecture et l'aspect intérieur. Et nous allons nous focaliser sur l'aspect intérieur. Bien prétentieux, une personne qui oserait dire, je vais vous faire un cours sur la concentration de la salat, en pensant que lui-même, il maîtrise la concentration de la salat. Ça, c'est impossible. Ainsi, ce genre de thème, on doit l'aborder avec beaucoup d'humilité. Et je parle pour moi. On doit l'aborder avec beaucoup d'humilité parce que certainement, on ne le met pas vraiment en pratique. Il y a des fois où on est concentré. Il y a des fois où on sent que ça y est, c'est parti. Mais il y a des fois où on a l'impression que ça ne va jamais venir. Allah musta'an. Et ça ne dépend pas forcément de la beauté de la lecture. Je reprends. Et je le répète encore une fois. Ne nous est-il pas déjà arrivé d'aller au Umrah et d'être, de prier derrière un imam de Mecca ou de Madinah avec une lecture qui est magnifique, et dans la salat on pense à autre chose? Ça nous est tous arrivé. Les premières salats que tu fais, vraiment là tu es subjugué par Mu'aqili, par Hudaifi, par Salah al-Boudir ou autre, mais à un moment donné, au bout de 2 jours, 3 jours, il y a une petite, je ne dis pas une routine, mais les choses deviennent un peu plus normaux. Et ta salat, si à la réunion à Masjid du Tampon ou ailleurs, à partir de Ghayr al-Maghdoubi alayhim wa ladh-dhalin, il n'est plus là. À Mecca, il y aura quand même les 5-10 premiers versets, et après, à un moment donné, tu prends ton avion, l'avion qui est dans ta petite tête là, tu prends, tu attaches ta ceinture, et tu voyages, comme tu voyages 5 fois par jour. Pas besoin de subvention d'État, rien, c'est un voyage qui est gratuit. C'est un voyage qui est accompagné par Iblis, par Shaitan. Parce que, mes chers frères en islam, l'objectif de Shaitan est avant tout de nous empêcher de faire les bonnes œuvres, et d'accord? Premièrement. Deuxième objectif de Shaitan, c'est de nous amener vers les péchés. C'est très clair. Troisième objectif de Shaitan, c'est lorsque le croyant se décide d'accomplir des bonnes actions, le perturber de ses bonnes actions. Comment est-ce que Shaitan nous perturbe des bonnes actions? Soit en déviant le nia. Et ça, c'est grave. Parce que s'il arrive à faire ça, il nous a eu. Il a gagné. Du début jusqu'à la fin. Dévier l'intention. Au départ, tu veux faire quelque chose pour Allah. Mais quand tu vois les wah-wah que les gens te portent, et ça, c'est surtout le grand danger pour les qurra, pour ceux qui lisent bien dans la salah, les grands dangers. Quand tu vois que la masjid est pleine, dis ce soir, on vous met la lumière. Ça va être une lecture de ouf. Et là, tu es en train de lire parce que, il y a telle personne, parce que la masjid, elle atteint sa limite. D'accord? Donc, on va essayer de montrer, voilà, hawla wala quwwata illa billah, que j'ai le coffre, j'en ai dedans. La hawla wala quwwata illa billah. Shaitan a gagné. Et toi, tu as perdu. Première source d'égarement du diable dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Le fait qu'il te fait dévier ton niya, et le niya, l'intention va ailleurs, c'est le sum'a, shuhra, uriya, les trois catégories de tentation. Ou alors, il te fait perdre en intensité, en concentration et en compréhension de l'action. Tu deviens une personne qui accomplit une action machinalement. Tu deviens un robot qui fait de bonnes œuvres. Il vient, il fait namaz, il repart, sans comprendre, sans différencier les lectures, c'est-à-dire sans qu'il y ait la relation du cœur. Le wajib, il est accompli, hein. L'obligation, il y est. Mais spirituellement, on n'en aura pas profité. Après, il y a une troisième. Il y en a d'autres, hein. Autre approche satanique, c'est de te faire penser, de te faire croire qu'il faut être perfectionniste dans la bonne action. Ainsi, une personne va refaire sa salat, après avoir fait la salat, parce qu'il a eu un petit doute. Peut-être que c'était pas bien fait. Peut-être que, mauvais ou, il y avait tellement de moi. Peut-être qu'il y avait un petit truc collé sur mes pieds. Et la personne va rentrer dans un cercle de troubles obsessionnels. Et l'acte d'adoration va devenir un rituel envahissant, plutôt qu'un signe de soumission à Allah Azza wa Jal. Alors, pourquoi on dit que développer la dévotion, c'est le plus dur? C'est en même temps le summum, mais c'est le plus compliqué, parce qu'il est basé sur quatre piliers. Il n'y a pas de hadith dessus, hein. Ça, c'est des déductions. Quelqu'un pourra vous dire qu'il y en a 5 ou 3 ou 6, peu importe. Moi, j'en ai vu, à la lumière des hadiths, j'en ai déduit qu'il y a 4 bases pour la salah. Premièrement, 4 bases pour la concentration, je veux dire. 4 bases pour atteindre la concentration. Premièrement, le ilm, la connaissance. Le ilm, iman billah, connaître Allah Azza wa Jal. Je vais développer la concentration à partir du moment où dans mon cœur, je sais. Qui est Allah? Je sais pour qui je fais ce geste qui n'a pas son équivalent dans la vie d'un être humain, la génuflexion. Et si on a le temps aujourd'hui, on aura le temps, Inch'Allah, on va beaucoup insister sur le rukou'. Le rukou', c'est le geste, la position la plus ghareeb de la prière, mais une des plus profondes également. Et le sijida aussi, bien sûr, mais chacun a ses particularités. Donc, ilm. Quand tu es le rukou', il y a un nom d'Allah que tu dois. Il y a des termes, j'hésite, il y a des verbes, je ne peux pas dire. Maîtrise, on ne maîtrise pas les noms d'Allah que tu dois connaître, que tu dois essayer d'apprendre, de comprendre. Parce que personne n'aura une compréhension complète, bien sûr, des noms d'Allah et de ses qualités. Ça, c'est impossible. Mais à la lumière des versets du Coran et à la lumière des textes prophétiques, c'est un devoir pour chaque musulman de développer la première branche de la foi, al-iman billah. Quand on était petit à la madrasa, on a tous appris à Amanto. Tout le monde a lu Kalima, oui ou non? Chose qui se perd à notre époque. Ça se perd. Mais il faut garder cette importance. Amanto billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ainsi, tout le monde connaît encore ces Kalima. Parce qu'on l'a tellement répété. Mais justement, Amanto billahi, c'est asl, c'est la base. Ça. Croire en Allah, c'est la base de la foi. Parce que l'ibada, qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient avant? Les piliers de la foi, les bases de la foi, les branches, on peut dire les bases, les branches, peu importe. Les branches de la foi ou les piliers de l'islam? Qu'est-ce qui est plus important? Les branches de la foi, bien sûr. Les 6 branches de la foi. ce qui compose le kalima. Ça, c'est plus important que les piliers de l'islam. Parce que les piliers de l'islam vont s'installer dessus. Si tu n'as pas iman billah, quoi ça sert d'aller au hajj? Et ainsi de suite. Si tu n'as pas iman bil malaika, il n'y aura aucun frein face au péché. Mais aucun. Si tu n'as pas iman bil kutub, iman bil rusul, tu n'es même pas musulman. Si tu ne crois pas en Isa, en Jésus, en Moussa, à Moïse, à la révélation de Tawrat et Injil, tu n'es même pas musulman, même si tu pries, ça ne va pas. Je veux dire, al-as, la base, c'est Aqidah, le Tawhid, l'unicité d'Allah. Azza wa Jalla. Ce qui est essentiel, c'est connaître ton Seigneur. Et connaître Allah, ça donnera une orientation à nos bonnes œuvres. Et ainsi, dans le recours, dans la génuflexion, il y a un nom d'Allah que tu dois obligatoirement apprendre et travailler pour développer, pour obtenir, pour arriver à la khushu', à la dévotion de l'ukur. Quel est ce nom d'Allah? Dites-moi. Al-Azim, bien sûr. Qu'est-ce que nous lisons dans l'ukur? Subhan Rabbi Al-Azim. Et Al-Azim est un des noms d'Allah. Ainsi, comment un croyant peut espérer trouver la dévotion et la concentration d'Allah Salah s'il ne connaît pas Al-Azim? C'est-à-dire que c'est le dhikr que tu répètes depuis que tu as 14-15 ans. Combien de rukours tu as fait depuis que tu es balira? Subhanallah, on ne compte même plus. Combien de fois tu as prononcé le nom Al-Azim? Ce qui n'est pas normal, c'est que tu t'es limité à un rituel et tu ne t'es jamais posé la question, mais qu'est-ce que veut dire Subhanallah Rabbi Al-Azim? Qu'est-ce que veut dire Subhanallah? M'y connais Subhanallah? Subhanallah, milieu physical. Allah, c'est le nom d'Allah. Rabbi, Rab, ça me rappelle quelque chose. Où est-ce que j'ai déjà lu le nom Rab? Ah oui, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ben, Rab, c'est Allah. Ça désigne Allah, bien sûr. Rab et Ilah, c'est pour Allah. Mais la portée de Rab, c'est pas la même portée que Ilah. Ilah, c'est en rapport avec Al-Ma'lou. C'est l'adoration. Rab, c'est en rapport avec ce qu'Allah t'accorde. Ce sont des notions précises, mais des termes qui ont été choisis par qui? C'est pas Moulissa qui a choisi les termes. Wahyun min Allah, au prophète alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire que les adhkars que nous disons dans la salat, on doit être conscient que c'est l'héritage prophétique. Abu Bakr priait comme ça. Abu Bakr disait Subhanallah Rabbi al-Azim, Umar, Uthman Ali, tous les croyants jusqu'à notre époque. Et nous sommes les héritiers de ces adhkars et de cette façon de prier. Mais ceux qui étaient avant nous, la différence, c'est que de leur prière, hein, spirituellement, ils arrivaient à décoller eux. Ils arrivaient à créer ce lien très fort et très profond avec Allah, chose qui nous manque, mais amèrement. N'avez-vous jamais ressenti cette culpabilité et cette frustration quand vous avez fait la salat, vous êtes en train de faire fajr? Au deuxième rakat de fajr, le imam dit Allahu Akbar, va donner le recours, et tu te rends compte que tu n'as même pas écouté sa lecture de la première rakat, ni celle de la deuxième rakat. Pourquoi? Parce que ton cœur était ailleurs. Tu pensais à la période fiscale, tu pensais aux vacances scolaires, tu pensais à l'organisation de Bakrid, tu pensais à telle chose, tu pensais à ton enfant, au rendez-vous chez le pédiatre, chez le médecin. Nous sommes des insans, nous sommes des êtres humains. Ça fait partie de nous, ça. Et c'est pour ça aussi qu'Allah nous aime plus que les autres créatures. C'est parce que l'être humain a ses faiblesses. Et que l'être humain a besoin d'un mujahada, d'un sacrifice et d'un effort considérable pour tirer tout ça et pour ramener ses passions, ses shahawat, ramener son corps, ramener son cœur vers Allah. Chose que les malaïkas n'ont pas besoin de faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit à propos des malaïkas? La ya'asuna Allah. Ils ne désobéissent jamais à Allah et ils font ce qu'Allah leur a demandé. C'est-à-dire que les anges ont été programmés pour obéir à Allah et ils ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah. Ils n'ont pas d'autres pensées, de shahwat, de passion ni de faiblesse. Nous sommes les créatures les plus faibles, les plus vulnérables. Inna aramna al-amanata 'ala as-samawati والأرض والجبال personne n'a voulu فأبين يحملها وشفقنا منها qui l'a pris وحملها الإنسان c'est l'être humain qui a accepté cette soumission à Allah malgré nos manquements, nos faiblesses. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Ainsi, quand après Fajr, qu'on se rend compte, ou quelque chose à la salat, je n'ai pas accroché une seconde, mais c'est pas normal. Comment je suis mauvais? Est-ce que cette salat elle est acceptée par Allah? À quoi, astaghfirullah, elle est même jusqu'à dire à quoi ça sert de prier alors que je n'y pense même pas? On a tous eu au moins une fois dans sa vie cette frustration et ce sentiment de culpabilité. Et si vous le ressentez, sachez que c'est déjà quoi? Une bonne nouvelle. C'est déjà un point positif. Si intérieurement ça vous ronge de savoir que vous n'accrochez pas de vos prières, ça veut dire que dedans, il y a une partie de ton cœur qui veut se rapprocher d'Allah. Il n'arrive pas, mais le niya est khalisa. L'intention est pure et sincère. Il veut se soumettre à son Seigneur. Ça veut dire qu'il y a du bien en vous. Et il faudra juste cette petite lumière qui est là, là, qui te veut poser la question. Je veux aborder un thème, et là on va faire un hors sujet total. Mais c'est ce qui est le plus croustillant. Quand je le fais, lorsque tu as accompli un péché et que intérieurement tu as des remords, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu te dis que là, franchement, là j'ai déconné là. Là, franchement, j'ai dépassé les limites là. Fadjat, il dit encore Fadjat ça? Même notre vieux dit ça. Là, c'était la chose à ne pas faire. Ben, Ikhwan et Filal, les ulama disent que le fait que tu te poses cette question, que tu te fasses des reproches à toi-même, ça, ce sont les premiers pas de Hidayah min Allah. Vous voyez la clémence d'Allah. Ce sont les premiers pas de lumière divine qui met dans ton cœur que c'est la concrétisation de Walladina Ida fa'alu fa'ahishatan. Ou ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Ils pensent à Allah. Ainsi donc, quand tu ressens de la culpabilité après avoir fait un péché, c'est que dans ton cœur il y a iman. Abshir, bonne nouvelle, iman est là. Quand tu as fait ta prière et tu ne t'es pas concentré et que ça te fait mal, quand tu vas au Hajj et que tu as fait le tawaf, cette tour autour de la Kaaba, et qu'à aucun moment tu as ressenti ziyadatul iman, tu n'as pas ressenti une connexion avec Allah, et tu te dis, tu te poses la question, n'y avait-il pas quelque chose de plus fort, n'y avait-il pas quelque chose de plus profond que uniquement de tourner autour de ce cube de couleur noire? Est-ce que c'est pour ça qu'Allah m'a amené de la Réunion 6000 km jusqu'à cet endroit? Quand tu te poses des questions, ça veut dire que le iman est présent dans ton cœur et que le iman n'est pas assouvi. Il n'a pas eu la lumière qu'il était censé avoir à travers les bonnes œuvres. Sache qu'il y a du bien en toi. Parce que ce qui serait grave, c'est que tu enchaînes les prières et que tu aies de le raflatam, de l'insouciance totale. Et tu ne te poses même pas la question. Et que tu n'éprouves même pas le besoin de différencier Subhan Rabbi al-Azim de Subhan Rabbi al-A'la. Et que le imam qui lise Qul a'udhu bi Rabbil Falaq ou Qul a'udhu bi Rabbin Nas, ça ne change rien pour toi. Et tu n'éprouves rien du tout. Là, c'est grave. Là, c'est que ton cœur est... Je ne veux pas dire que ton cœur est mort. Je ne peux pas le juger. Mais que ton cœur, il a vraiment besoin d'assistance spirituelle. Ce qui est grave, c'est lorsque le croyant accomplit un péché et il n'est aucun remords dans son cœur. Il ne se soucie à aucun moment du muraqabatullah, du regard d'Allah sur lui. Quand ce jeune homme de 18 ans, qui est en terminale au lycée, au tampon, et qu'il retrouve comme tous les jours sa petite amie, sa copine, la fille pour qui il a des sentiments, ce qui fait de nous également des êtres humains, et qu'il passe 10 minutes, 15 minutes d'interclasse avec elle, et avec un muhabba qui n'a pas sa place, avec un contact physique qui ne doit pas avoir lieu, et qu'il se sépare, il se dise à cet après-midi, ou à demain, et ainsi de suite, et qu'il rentre chez lui normalement, et qu'il vient à la matière salat al-dhahr normalement, et que de son cœur, ça ne passe même pas de son cœur que ce que j'ai fait c'était mal. Là c'est grave. Là on a un cœur qui est rafil. Là on est tombé, là on peut être considéré comme un fasiq, un pécheur endurci. Parce que le péché a tellement envahi ton cœur qu'il a créé une carapace. Connais le hadith, le point noir, tout le monde connaît? Quand un musulman complet pêche un point noir sur son cœur, s'il demande pardon, le point noir est enlevé. Mais s'il ne demande pas tawba quand est-ce qu'on demande tawbah? C'est quand on est conscient qu'on a désobéi à Allah, c'est qu'on a des remords. Et là, le tawbah est accepté. Ce sont les conditions d'acceptation du tawbah d'ailleurs, les remords et la reconnaissance de l'erreur et l'intention de ne plus recommencer. Mais si tu n'as pas demandé pardon à Allah Rabbul Izza, le point noir s'incruste et s'installe. Et lorsque le péché sera renouvelé, il y aura un nouveau point noir. Imagine lundi matin, ce rendez-vous galant, plutôt galeux spirituellement. Lundi, un point noir. Lundi après-midi, mardi matin, mardi après-midi, et ainsi de suite. Au bout d'un mois, ça donne quoi? Ça donne un cœur qui devient noir. Noir dans le sens où c'est un cœur qui devient imperméable. À quoi? Imperméable au nour, minallah, à la lumière divine. Tu pries, ça ne fait rien. Ton cœur, il est débranché. Gardez cette image. C'est comme si vous avez la meilleure ampli, le meilleur appareil. Vous ne le connectez pas. Il n'y a pas la prise secteur, il n'y a pas la prise USB, il n'y a pas le VGA, bref, n'importe quel nom de prise. Rien. Vous avez un appareil mahbon, comme ça, que vous le posez. Aucun intérêt. Ça n'avance pas, ça ne recule pas. Là, il y a une tafir. Ça n'apporte rien. Donc, ikhwan et fillah, si, je reviens, si nous avons éprouvé déjà ce sentiment de mal-être intérieur, parce que je prie mais ça ne, il n'y a rien qui se passe en moi, c'est que ton cœur veut, ton cœur cherche Allah. C'est bien ça, que ton cœur cherche Allah. Ça veut dire que tu as cette bonne intention. Et pour que ton cœur trouve ton Seigneur, il faut que ton cœur sache vers qui il s'oriente. Pour qui il fait la génuflexion, pour qui il se procède, ainsi de suite. Et je répète ce qu'on a déjà dit deux fois, cela transite obligatoirement par connaître Allah. Ikhwan fillah, si durant toute ta vie, tu n'as pas étudié une fois un des noms d'Allah, c'est grave. C'est qu'on n'a pas compris comment orienter notre relation avec Allah. C'est qu'on a pensé que être un bon musulman, c'est d'avoir des bâtiments, des infrastructures. Vous voyez les appels aux dons en ce moment, dans toutes les mosquées de l'île. T'en penses aussi appel aux dons? Alhamdulillah, qu'Allah vous accorde, wa akthar, et plus encore, pour que ce soit profitable pour nous, vous et les futures générations. Ahamishay, comme nos parents nous ont légué. Mais, ikhwani fillah, khawati fillah, le but ce n'est pas uniquement d'avoir une belle mosquée, ce n'est pas d'avoir un beau lustre, ce n'est pas d'avoir une madrasa avec 9 salles de classe climatisées aux normes de sécurité, d'avoir comme un jeune posté sur Facebook, si j'étais moi président, je... On a entendu quelqu'un dire ça avant. Moi président de mosquée, j'aurais fait un centre aéré derrière la mosquée, avec des jeux, avec un espace d'accueil pour les enfants. Je kiffe grave ce qu'il dit, j'ai entièrement d'accord. Mais ce n'est pas ça qui va amener iman dans le cœur. Ce n'est pas ça qui va, qui va garantir la transmission de iman et de yaqim et de certitude de la foi de génération en génération. Ce ne sont pas les infrastructures. Ça veut dire que dans notre conception du din, et là je me pointe du doigt premier, en tant qu'enseignant, entre guillemets, on essaie d'enseigner, on essaie de propager, si on a fait l'impasse sur iman billah, on a tout raté. Et je le dis clairement, si on n'a pas enseigné aux moussalli, aux gens, connais ton Seigneur, connais, quand tu dis, Allah Akbar, je ne vais pas m'emporter, quels sont les deux noms d'Allah, je m'emporte contre moi-même en fait, quels sont les deux noms d'Allah qu'on récite le plus dans une journée? Qui a la réponse? Hein? Un parle fort. Non, plus. Rahman Rahim, pourquoi? Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim. 17 fatihas par jour. 17 fatihas par jour. Je parle de 17 rakat faraz. D'accord? 20 pour salat al-Tarawih. Et quelqu'un qui fait ses sunnats, son faraz, ses sunnats waqada avant et après son vitar, je crois que ça ramène à 30 rakat par jour, c'est-à-dire 30 fatihas. Et c'est combien de ar-Rahman ar-Rahim multiplié par 2? Je crois, hein, ça doit être comme ça. Ça fera 60. Parce que chaque al-Fatiha sera accompagné d'un basmala. C'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et ar-Rahman ar-Rahim al-Fatiha. Donc c'est multiplié par 2. Tu ne t'es jamais posé la question. Pourquoi est-ce qu'Allah te demande de lire entre 50, 60, 100 fois ar-Rahman ar-Rahim par jour? Pourquoi est-ce que dans ta vie, ce sont les noms d'Allah que tu vas lire le plus? Arrêtons d'être ces pratiquants de façade. Façade en français, pas en arabe façade. Ces pratiquants d'apparence extérieure, mais qui ne creusent pas. Al-Iman mahalluhu al-qalb. La foi, c'est dedans. On n'a rien fait rentrer dedans. On s'est limité à la pratique extérieure. La perfection dans les piliers, dans les prières, dans le hajj. On va aller avec le meilleur package, avec les conditions d'hébergement, de proximité satanique les plus intéressantes. Je parle de Jamara. Et ainsi de suite. On va avoir les hafidh al-Qur'an qui les sab'a et qui font lever les foules. On fera venir, faire venir les qaris égyptiens. Allah, Allah, Allah. Et quand il va lire, les gens ils vont sauter de takbir et crier Allah Akbar. Heureusement, il n'y a personne pour nous ficher S. Quand il y a les qurra égyptiens, autrement, ce seraient des mosquées remplies. Mais il fait son qiraat en Maghrib et Isha. Revient le lendemain Fajr. Où sont les gens? Wayna nas? Waynahum? Comment on a profité de cette lecture? Aujourd'hui, nous y aimons ça. On aime tout ce qui. C'est pas qu'on a, on a raison d'aimer, mais je veux dire que. C'est un parcours qui est biaisé, on s'est trompé de cheminement vers Allah. On s'est focalisé sur ce qui est extérieur, sur arkan. Et on a délaissé usul, aqida, tawhid, base de la foi. Ainsi, bien inconscient, le croyant qui pense qu'il se rapprochera d'Allah sans connaître Allah. Ainsi donc, on est en train de distiller notre temps un peu trop. Ar-Rahman ar-Rahim, c'est essentiel. Commence par Ar-Rahman ar-Rahim pour créer une première connexion avec Allah dans tes prières. Ensuite, dans ton recours, étudie le nom d'Allah Al-Azim. Et dans le sujoud, le fait qu'Allah soit Al-Ali. Uluwullah. Le fait qu'Allah soit le plus élevé. Parce que dans le sujoud, tu dis Subhan Rabbiyal A'la. Et ainsi de suite. Ikhwan fillah, déjà s'il y a Rahman Rahim Azim et Al-Ulu, Allah qui est Al-Ali, qui est le plus élevé, c'est déjà un premier pas. Donc, pourquoi est-ce que c'est un mawdou' qui est complexe? Pourquoi c'est un objectif qui est difficile à atteindre? Parce qu'il faut connaître Allah. Il faut l'étudier, ça. Ça, il faut que tu tiennes de ton temps. Il faut que tu lises des livres. Il faut que tu arrêtes les bolissables. Quitte à ce qu'ils sont dans la rue, tu les arrêtes. Apprenez des méthodes clés de gens vont vous attraper ou vous voulez trouver des solutions. Explique à moi quoi veut dire Rahman, quoi veut dire Rahim. J'ai besoin de connaître ça, sinon, mon rendez-vous avec Allah, il n'est pas accompli. Wallahi, mas'ouliya. On a une responsabilité. Tablir al-risala, propager le din. Et les responsabilités du alim, c'est aqida, tafsir, hadith et fiqh. On va pas rentrer, ça c'est autre chose, autre sujet encore. Deuxième pilier pour la concentration, c'est at-tafaqquh. At-tafaqquh, on parle de tafaqquh et de tafsir en même temps. Un minimum de tafsir, de connaître al-fatiha, pas la traduction, le sens. Mais on avait expliqué, il y a eu ou non Fatiha. Et ce qu'on va essayer de travailler aujourd'hui, puis la Fatiha c'est terminé, le sens de Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'zim, Sami Allah min Hamida, Rabbana lakal hamd, at-tahiyyatu lillahi. Si on y arrive. Ça, c'est le deuxième pilier pour arriver à une concentration optimale dans la salah. Et ce n'est pas évident. Ça nécessite du temps, et ça s'appelle ta'lim. C'est le ilm shar'i ça. Celui qui va voir un savant ou qui va machin, il est dans le chemin d'Allah parce qu'il est en train d'apprendre le ilm. Et ça s'appelle vraiment ilmun nafi'. Ça, c'est une science qui est profitable. C'est pas la connaissance juste pour l'étalage. Connaissance qui est profitable parce que dans ta prière, cette connaissance-là va te permettre de parfaire cette relation avec Allah. Troisième pilier, développer le yaqin et le yaqin, on va dire ça, le yaqin, la conviction en Allah. Mais ça, c'est un travail intérieur qui vient, qui est le fruit de l'assiduité aux bonnes œuvres. C'est trop puissant de vous l'expliquer ça en quelques instants. Mais lisez Tafsir al-Fatiha, vous aurez compris tout le Coran. Hadith qui stipule que combien de livres Allah a révélé. Et tout a été condensé de Taurat, Zabur et Injil. Et que Taurat, Zabur et Injil concentré, condensé dans le Coran. Et que le Coran, et que le contenu du Coran est concentré dans le Mufassalat à la fin. Et que le Mufassalat est concentré dans Al-Fatiha. Ainsi, le mu'min qui... On ne vous demande pas d'étudier tout le tafsir. On va dire que ça reste technique, c'est pour les ulama. Mais tafsir Al-Fatiha, c'est la clé. Sab' al-Mathani. Et c'est ce que nous lisons. C'est le chapitre qu'on lit le plus souvent dans la salat. On se pose la question, mais on doit se poser la question, quitte à se cogner la tête contre la table, on dit, mais comment est-ce possible que je lis Al-Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, depuis mes marmailles, et je ne me suis jamais posé la question. où je n'ai jamais pensé à demander à quelqu'un, un professeur, un alim, ou à ouvrir un Coran en français pour savoir quel est le sens de l'Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, et quelle est la différence dans le message de Rahman Ar-Rahim et Iyakan Abdu, Iyakan Asta'in et Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ce sont des messages totalement différents, orientés vers Allah, mais avec des objectifs totalement différents. Si je ne me suis pas posé la question, c'est que j'ai énormément de retard à rattraper. Et j'ai besoin de rattraper ce retard. Notre but, c'est pas, je vous dis très clairement, on va pas commenter tous les afkars de la prière. Ça, c'est pas possible, ça. Ça faudrait des jours et des jours. Mais s'il y a une prise de conscience, et avec ça, on peut, ne serait-ce Subhan Rabbil Azim Al-A'la et un morceau de Sami Allah Al-Hamida, je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Le but, c'est de créer l'envie, At-Talab, et éveiller les cœurs, prendre conscience qu'on a du retard. Et retard spirituel qu'on a besoin de combler ainsi. Ce qui était puissant, que je vais vous dire, c'est que la confiance en Allah, c'est l'aboutissement de Iyyaka Na'bud. Le Iyyaka Nasta'in, c'est auprès de toi que nous cherchons un secours, refuge. Toutes les traductions sont bonnes. Quand on dit je cherche secours auprès d'Allah, c'est que tu as confiance en lui. Oui ou non? C'est la tawakkul, c'est la confiance. Les savants disent que cette confiance en Allah, ce sera le fruit de Iyyaka Na'bud. Quand tu es assidu aux bonnes actions et que tu as créé un lien avec ton Seigneur, il y a la présence d'Allah, entre guillemets, hein, la présence d'Allah dans ton cœur. Et là, tu arrives à t'en remettre à Allah. Celui qui est régulier dans ses a'mal. Mais après ça, je vais ouvrir une troisième porte. Régulier dans les a'mal, ça veut dire également sabru anil ma'asi. Régulier dans les a'mal, ça se traduit par as-sabru ala ta'a. L'assiduité dans les bonnes œuvres. Mais il y a trois catégories d'assiduité. Assiduité dans les bonnes œuvres, pour que l'assiduité soit totale. Mais l'assiduité également dans l'abandon des péchés. Ainsi, si je n'abandonne pas les péchés, je ne serai jamais assidu réellement dans les bonnes œuvres. Parce que mes péchés vont annuler mes bonnes actions. Et ce serait dommage. Ainsi donc, on remonte la pelote. Si je le retrouve d'ailleurs, si je suis assidu dans les bonnes actions, et donc je délaisse les péchés, je vais développer un quwwatul, un hub, allez, plus simple, un hub, lillah. Fillah, je vais aimer Allah, je vais aimer mon Seigneur, je vais développer ta'zimullah. La grandeur d'Allah va rentrer dans mon cœur. Ainsi, quand j'ai un problème ou une difficulté, il me suffira de lever les mains, d'implorer Allah, et ce que je vais dire, hein, ça ne sera pas les doigts que j'ai appris dans un kitab, ça va être des choses qui sortent de mon cœur. Et ces doigts-là, quand vous vous rendez compte que vous faites doigts en français, en créole, c'est déjà une bonne chose. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. C'est le lien le plus fort. Pour ça, on dit الدُّعَى هُوَ الْعِبَادَةِ. Le dua, الدُّعَى هُوَ الْعِبَادَةِ. L'invocation, c'est l'acte d'adoration. On peut traduire par excellence. Parce que dans le dua, il y a les mains qui sont levées. Mais est-ce qu'il est obligatoire de lever les mains pour faire dua? Non. Tu veux que Dieu me fait dua? Vous lèvez les mains, Ya Rabba, Ya Allah. 4 points et ça va. Le policier dit, vous faisiez quoi? Il dit, j'ai invoqué mon Seigneur. Il dit, ben quoi, vous allez commettre quelque chose? Le dua, les mains levées, ou peu importe. Mais le dua, ça démarre du cœur. Fa'inni qarib. Et la composition là, de cette phrase, fa'inni qarib, sur le plan grammatical, c'est énorme encore, pour montrer la proximité où il y a une partie des mots qu'Allah a enlevé, et mahdouf qu'on appelle ça en arabe, pour montrer que la proximité, le kaboul et l'écoute d'Allah, elle est immédiate. Demande à Allah, il a. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Je suis proche. Mais si notre doua, on s'est limité à juste un hisab qui dit plein de choses, et tu dis amin, c'est l'échec total. Certes, il y a des sahabas qui ont fait doua, d'ailleurs d'autres sahabas en disant amin, ça existe, mais ça ne doit pas se limiter à ça, comprenez mon message. Je ne veux pas dire que si Moussa fait doigt, fait pas doigt, non, c'est bien, mais si tu n'as pas un temps individuel de doigt, ça c'est grave, parce que le lien le plus fort avec Allah, tu ne l'as pas. Et quand tu commences à faire doigt en français ou en créole, ou arriver à t'en remettre à Allah, là c'est un bon signe. Là on est en train d'essayer de montrer quand même les bonnes choses qu'il y en a, parce que je craignais aller vers un sens où on dit que intérieurement on est zéro. Non, on n'est pas zéro, il y a des petites flammes, il y a des petites flammes qui sont là, elles sont allumées. Il faut maintenant l'entretenir et faire en sorte que ça devienne quelque chose de brillant. Dans le tafsir de Surat al-Qasas, Moussa alayhi salam, quand il y avait l'histoire des femmes qui devaient prendre de l'eau, les savants, les Mufassirin disent que ça s'appelle al-iftiqaru ilallah. Et celui qui atteint ce niveau, al-iftiqar ilallah, c'est se montrer, je fais une traduction littérale, être pauvre devant Allah, être démuni, montrer à Allah que je suis rien, que je suis démuni. Même si je suis aisé dans la vie de tous les jours, même si j'ai un poste à responsabilité, même si, ça reste dunia, c'est même pas un millième de l'aile d'une mouche qu'Allah a mise de ce dunia. Donc devant Allah, tu pèses quoi là? C'est pas parce que tu as deux comptes en banque et ça c'est rien. Montre à Allah que tu es pauvre. Ça s'appelle al-iftiqar ilallah. La racine c'est faqr, faqir. On connaît le mot faqir peut-être. Et ça c'est a'malul quloub. Ça fait partie des actions intérieures. Tout ça, c'est dedans, c'est pas dehors. Et Moussa alayhi salam, il l'a dit, il a montré à Allah, je suis rien, j'ai grandement besoin de toi. Et donc, tout ça, ce sont des points développés. Et cette yaqin en Allah, le fait de ressentir la puissance, la grandeur d'Allah, ça c'est après une assiduité aux bonnes œuvres. Et quatrième pilier de la concentration, c'est Hubbullah wa Khashyatullah, aimer Allah plus que tout au monde. Craindre Allah plus que tout au monde. Et on va voir, en résumé encore, de conclusion du résumé, que la finalité de Allahu Akbar, de la salah, c'est mais Allahu Akbar dans toutes les situations de ta vie. Allahu Akbar عند فعل الطاعات الله أكبر عند اجتناب المعاصي. Le réveil du matin est difficile en dehors du Ramadan, bien sûr. En dehors du Ramadan, il était lourd et difficile de te réveiller pour venir Fajr à la masjid. Tu te dis que j'ai assez fait, na'oud billah. Piège satanique, sentiment du devoir accompli. J'ai bien prié durant le mois de Ramadan, c'est bon. Maintenant, je me pose, d'accord. Là, il demande le prophète Zulam Choudkor. C'est ce que t'es un shaitan savant. Ça c'est très embêtant ça. T'as Shaitan qui est psychologue, parce qu'il sait comment t'approcher. Quand il y a cette pensée satanique, c'est waswasa ça. Elle a dit waswasa fi sudurillah. C'est une insufflation du diable. Dis Allahu Akbar. Et c'est Allahu Akbar, c'est Allahu Akbar min shahawati. Allahu Akbar min raflati. Allah est plus grand que ma paresse. Allah est plus grand que mon insouciance. Allah est plus grand que mes passions. Quand tu es exposé, quand tu es exposé à ce péché de ton cœur, j'ai dit, hein, dis Allahu Akbar. Allah est plus grand que ce haram. Allah est plus grand que mon cœur qui penche vers le mal. Allah est plus grand parce que ce qu'il me donnera là-haut, c'est plus grand. Allahu Akbar, recentre-le. Fais que ce soit le point de tawaf de ta vie. De tawaf intérieur. Tout doit tourner autour de Allah Akbar. Des réalités qui émanent de Hubbullah et de Khashyatullah. Ces quatre piliers, on a besoin de travailler. Nous, à notre niveau, on va essayer un dhikr ou deux concernant les adhkar de la salah. Et justement, ce qui nous amènera, Inch'Allah, vers une troisième année du même thème, Inch'Allah, pourquoi pas, si Allah nous donne longue vie, Inch'Allah. Ainsi, Ikhwan et Fillah, les savants expliquent que si tu as atteint, là le but c'était de décrasser et de d'éveiller les consciences, moi-même en premier, et maintenant de nous faire entrevoir, mais de très loin, quel serait le résultat si on arrivait à une concentration, à une dévotion optimale de la salah, celle qui est citée dans le 18e juz, قَدْ فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui, dans leur prière, font preuve de dévotion. Allah Rabbul Izzah n'a pas dit uniquement الَّذِينَ يُصَلُّونَ, ceux qui prient. الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Parce que ces actions-là, ça qualifie une entité, un terme, al-mu'minun, c'est-à-dire ceux qui ont complété le iman. Ainsi, tout le monde dit Allah est dans l'iman kamil, mais iman kamil, la foi complète, ne pourra pas trouver sa place dans le cœur tant qu'il n'y aura pas la dévotion dans nos prières. On a compris que c'est la clé, c'est la base. Ainsi, la personne, le croyant, ça c'était le cas des sahaba, et nous devons viser cet objectif. Quand tu arrives à ce niveau de dévotion, de concentration, tash'uru, les savants disent bil'ubudiyyati wa tazalluli wal inkisari amam Allahi fi salatik wa dhalika kullama bada'ta salatan. Parole magnifique. Lorsque tu arrives à ce niveau, tu trouves le lien de soumission. Tu te replaces quand tu pries, même si en dehors de la salat, tu es PDG, tu es chef d'entreprise, tu as des responsabilités, et peu importe, tout ça, ça restera que du dunya. Mais quand tu dis Allah Akbar, tu ressens vraiment que tu es le serviteur d'Allah. Ya Rab, ton esclave. ton esclave, ton serviteur se présente à toi et il va faire la génuflexion comme tu l'as demandé. Il va se jeter à même le sol et poser son visage, l'endroit qu'on soigne le plus, qu'on veut le mieux présenter aux gens. Ce visage-là, il va le mettre là où on met les pieds, sur le sol, parce que tu me l'as demandé. Ya Allah, ça c'est pour toi, ça c'est ma soumission, parce que je t'adore, parce que j'ai été créé pour ça. Et avec cet espoir que si un jour je peux mourir comme ça, ce serait le plus grand honneur. Allahumma ja'alna minhum. Ressentir ce lien de uboudiya avec Allah à chaque fois que tu vas dire Allahu Akbar. Comme si que tu branches un appareil, tu mets sur on, immédiatement ça démarre. Ainsi était le cas de sahaba. Parmi les membres de la famille du prophète, alayhi salat, on dit que le prophète était avec nous, il parlait avec nous, il était avec sa femme et ses enfants. Il était quelqu'un comme nous. Mais lorsqu'il entendait Al-Adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, son visage, les traits de son visage changeaient. Et il avait un air sévère. Il se levait subitement. Et il se dirigeait vers la prière. Et lorsqu'il était dans la prière, là il n'y a même plus besoin de décrire le niveau de dévotion, de concentration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas besoin d'entraînement. Allah Akbar, ils commencent à prier, khalas. Ils y sont. Le cœur se reconnecte avec Allah 5 fois par jour. Maintenant on comprend pourquoi ils ont atteint ce niveau de foi. Je vais faire un sujet encore qui est magnifique. Khilafa de Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab et Amir al-Mu'minin. On est après le décès de Prophète Abu Bakr. Il y a des musulmans qui sont en difficulté dans une zone où l'armée ennemie prend le dessus. Toutes les nations font des guerres, on est d'accord. Et ils sentent qu'ils vont perdre la bataille, c'est plus possible. L'armée, je ne sais pas si c'était contre les Romains ou. C'est une armée extrêmement puissante. Il dit oh Amir al-Mu'minin, on a besoin de 6000 cavaliers. Qui connaît l'histoire? Ça, ça fait trembler intérieurement. Ça fait pleurer, ça fait trembler, ça démoralise aussi en fait. Ça le démoralise parce qu'on se rend compte qu'on est à des années lumière de ça. Il dit oh Amir al-Mu'minin, ils envoient une lettre. On a besoin d'un renfort, 6000 cavaliers de plus. Autrement, l'armée ne tiendra pas quelques jours encore. Umar ibn al-Khattab envoie 6 personnes. Je vais demander combien? 6000. Il en envoie 6. Le chef de l'armée les reçoit. J'ai plus son nom en tête, ça fait longtemps que j'ai lu ça. Il est étonné. Les personnes viennent avec un khitab, un courrier de Umar ibn al-Khattab. C'est un visionnaire, Umar. Il dit au chef de l'armée, parce qu'il savait qu'il allait être déçu, il ne comprendrait pas qu'est-ce qui se passe. Ils attendaient à voir une nuée de cavaliers avec poussière à l'horizon qui s'approche avec leurs lances, leurs épées, leurs boucliers et ainsi de suite. Il voit 6 personnes seulement qui viennent, seulement, Allah me pardonne ce terme, 6 personnes qui viennent. Et Umar avait remis un courrier et dit, oh, un tel, tu t'attendais à 6000 cavaliers, je t'en ai envoyé 6, mais chacun un imam qui vaut 1000 d'entre vous. Et sache que ce n'est pas le nombre de personnes qui vous donnera la victoire, mais c'est le quwwatul iman, l'amour qu'ils ont pour Allah, la crainte d'Allah, et le lien avec leur Seigneur est tellement puissant que ces 6-là, je vous garantis, ils valent 6000 parmi vous. Allahu Akbar. Il y a des choses qui nous manquent. Il y a des choses qui nous manquent, les ikhwan, les filles, là c'est grave. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme et se rendre compte que le système qu'on a mis en place, il est bon. Masjid Madaris, Kabristan et l'organisation des madrasas et tout. Je ne critique pas, je suis moi-même responsable de madrasa. Je suis dans le système. Tout ça c'est bon, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le ilm, on l'a occulté totalement. Mais c'est grave, on ne s'intéresse plus du tout au ilm. Faites un bayallah, Ramadan, mashallah, en dehors de Ramadan, faites un programme. Vous retrouvez avec une poignée de personnes, vous dites que, est-ce que le problème vient de moi? Est-ce que le problème, où est le problème? Il n'y a plus de talam. Les gens ne sont pas intéressés. Et là, on se souvient, on se pose la question, mais il y a l'intérêt, on continue ou non? Et là, il y a un hadith qui revient. Je sais que toutes les réponses se trouvent dans la parole d'Allah, la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des prophètes qui se présenteront devant Allah avec une umma énorme, d'autres avec moins de gens, d'autres avec une poignée de personnes, d'autres se présenteront devant Allah, c'est-à-dire avec les gens qu'ils ont pu ramener vers le droit chemin. Wa ma'ahu, 2 personnes. Wa nabi wa laysa ma'ahu ahad. Un prophète se présentera devant Allah seul, C'est-à-dire, toute sa vie, il a invité les gens, Ubudullah, la tushriku bihi shay'a, et personne ne l'écoutait. Mais il aura réussi sa mission parce qu'il a été persévérant jusqu'à la fin. Il a guidé et donné maintenant. Ainsi, ikhwani fillah, le ilm, ça nous manque cruellement. Il faut arrêter de se dire que le ilm, c'est pour les ulama. Je ne suis pas d'accord avec ce discours. Le ilm daqiq, précis, oui. Il y avait une assemblée hier où quelqu'un posait la question, est-ce que moi, musulman lambda, je peux prendre un Sahih Bukhari et lire? Oui et non. Oui, tu vas profiter. Non, parce que il y a une certaine, il faut quand même un socle quand même. C'est comme si déjà quelqu'un va voir directement, ouvre un livre de commissaire au compte. Tu n'as même pas fait BTS Compta. Tu ne peux pas aller gratter aussi haut. Oh, tu ne peux pas aller vers ces horizons. Ou alors, on va voir comment des termes de neurochirurgie. Tu avais 10 de moyenne en biologie, en SVT. Ça va. Tu ne peux pas quand même viser aussi haut alors que tu n'as pas de base. Là, c'est une réalité. Mais le ilm, il y a un socle commun qui est accessible à tout le monde. Et personne, dans aucune assemblée, ne pourra dire que je n'avais pas accès à la connaissance. Parce que ce n'est pas vrai. Le ilm est partout, par internet, par le biais des savants, on a un nombre de ulama extraordinaires, ainsi de suite, tout ça, c'est un devoir. Iman billah, on doit le développer pour arriver à ce degré de concentration. Tazdadu imanan wa yaqinan fi kulli rak'atin. Chaque unité de prière augmente ton iman et tu découvres c'est quoi? Halawatul iman, la douceur de la foi, thème qu'on ne va pas développer. Troisièmement, la prière deviendra la chose la plus aimée. Ahabbu ibadatin ilayk. C'est le moment que tu vas le plus attendre de toute une journée. Ça, c'est quelque chose d'énorme, ça. Quand ton rendez-vous avec Allah, c'est le summum de ta vie. Et ça se répète 5 fois par jour. C'est la consécration. Également, tu trouveras l'aide d'Allah dans la prière. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Pour qui Allah révèle les uns? Pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali, bas. Pour les sahabas et tout, pour nous, pour Nour, pour Ibrahim, pour Irfan, pour toutes les personnes présentes, jusqu'au Qiyama. Tu as un problème? Ista'inu bis-sabri was-salah. Cherchez refuge et secours dans, par la patience, ça c'est l'action qu'on doit essayer de faire émerger, et par la salah, c'est l'outil, le lien, la clé, tout ce que vous voulez, qui nous permet de créer ce lien avec Allah. Ista'inu bis-sabri was-salah, c'est comme Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Quand tu trouves n'importe quelle situation, tu fais de la quête et tu trouves la satisfaction de tes demandes, là tu atteins l'objectif, mais on est malheureusement très loin de là. Également, quand tu as développé ces qualités intérieures pour ta prière, jamais tu n'éprouveras la moindre lassitude dans tes prières. Et l'objectif sera tu deviens un homme pieux qui s'éloignera de tout ce qui est haram, tu atteins la taqwa, la piété, et tu atteins le summum. Qu'est-ce qui est au-dessus de la piété? Hein? Le terme en arabe, si quelqu'un l'a. Un peu tard pour les devinettes peut-être. Al-Ihsan. Al-Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Tu adores Allah comme si tu étais devant Allah et tu le voyais. C'est-à-dire que tu as un tel niveau de yaqin, un, de ta'zim d'Allah Azza wa Jal, que lorsque tu accomplis la bonne action, c'est exactement comme si tu étais devant le trône d'Allah et tu es en train de lui montrer toute ta dévotion, ton amour pour lui et la crainte que tu as dans ton cœur pour lui. C'est l'ostentation pour Allah, montrer à Allah notre bonne volonté. Ça, c'est le summum de la foi. Donc Allah Rabbul Izza nous permet d'atteindre ces objectifs. Vous vous rappelez qu'en 2017 on avait parlé de la lumière qu'il y a dans la prière, on avait parlé également du takbir et de la force, de la puissance de yaqin qu'il y a dans le takbir, et on l'a rappelé et on a dit que Allah Akbar, ça doit être au centre de notre vie face à n'importe quel péché également, et les récompenses qu'il y a dans chaque takbir et comment cela va peser lourd le jour de Qiyam. Est-ce que quelqu'un a mis au moins une fois en pratique le doua qu'on lit en venant à la prière quand on demande à Allah de la lumière? C'est peut-être ma faute. On va le rédiger, Inch'Allah, et l'envoyer. C'est des doigts qu'on trouve dans Hisn al-Muslim, dans la citadelle du musulman. Le but, c'est d'arriver à un degré de pratique, c'est d'en profiter. On avait vu également en 2017 Al-Thana. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka. Et on avait dit que lorsqu'on prononce ces formules de Thana, on doit vraiment ressentir qu'on est en train de faire les louanges d'Allah. Avant d'interpeller, de parler à une personne. Quand il s'agit de relations humain-humain, Je vois une femme, je dis que tu sais, tu as toujours été mon meilleur ami. Tu es quelqu'un de extraordinaire. Vraiment, tes qualités, j'aimerais en avoir au moins une. Elle dit, arrête pas sa peinture Corona. Ou veut quoi? Vous amenez? Ou veut. Oula, c'est quelque chose, tu as des dettes. Dis, va droit au but, ne fais pas perdre mon temps. Dans les relations humaines, ça fait un peu lèche-botte, ça fait un peu. Voilà. On a compris. Mais quand on s'adresse à Allah Azza wa Jal, les premiers termes doivent être exclusivement des louanges. Et sana subhanakallahumma bihamdika, vous vous rappelez, hein, la traduction gloire à toi Allah, gloire. Louange à toi, oh Allah, louange. Béni soit ton nom, 3. Exalté soit ta grandeur et on t'aime par le tawhid et il n'y a pas d'autre divinité que toi. Tu as dit à Allah comment il est, tu as essayé de dire à ton Seigneur comment est-ce qu'il est magnifique et comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il compte pour toi. Et en fait, il dit, ya Allah, il n'y a personne qui mérite d'être adoré à part toi. Là, tu as enclenché la conversation avec Allah Azza wa Jal. On a vu également le isti'adha, ça veut dire quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et on a vu que demander protection contre shaitan qui t'embête tous les jours, mais également contre shaitan qui, lorsque tu dis Allahu Akbar, il vient. Il est présent avec l'autre diable. Il y a un diable qui a été créé spécifiquement pour perturber le croyant dans ses prières. Et je vous assure que lui, il ne connaît pas la crise. Il le fait et il réussit et il en ressort, il doit être obèse ce shaitan, parce qu'il réussit à pomper notre attention, notre dévotion et à nous faire ressortir comme une coquille vide de la prière. Du Allah, salam alaykoum wa rahmatullah. Hey, je suis où? Qu'est-ce qui s'est passé? Imam, t'es là aujourd'hui? Mais apparemment tu étais ailleurs, Allah musta'an. Et il y a ce diable qui est là spécialement pour déranger le croyant dans sa prière. Ainsi, le isti'adha, le a'oud bilam de shaitan rajim, avec conviction, c'est pour chasser ce shaitan. Et on avait vu le basmala, c'est-à-dire dire bismillah ar-rahman ar-rahim, dont l'objectif c'est de démarrer par le nom d'Allah, et quand on dit bi, c'est grâce à par l'intermédiaire d'eux, et par le nom d'Allah, tu demandes à Allah son aide. Et ça rejoint la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas de force et de puissance saisonnée par Allah, c'est-à-dire que c'est Allah qui te donnera la possibilité de prier. C'est Allah qui te donne la possibilité de prier et c'est lui qui te donnera la possibilité de compléter, de parachever, de parfaire cette salat. Ensuite, on s'était séparés là-dessus l'année dernière, je veux dire la semaine dernière, c'était comme si c'était il y a une semaine, subhanallah, on avait fait le tafsir d'Al-Fatiha qui est composé de louanges à Allah, de rappel. Tu le dis 17 fois par jour, Maliki Yawmiddin, tu te rappelles à chaque fois que un jour je retourne auprès d'Allah. Parce que lorsque tu dis que c'est toi le maître du jour de la rétribution, tu évoques la notion de Qiyama à chaque fois. Tu le dis, mais si tu le dis avec ta langue, il faut que ça rentre dans ton cœur. Et si ça rentre dans ton cœur, ça doit se manifester dans ta façon de travailler, dans ta façon de regarder, dans ta façon de parler. Si tu as intégré au moins 17 fois par jour qu'un jour il y a Yawmuddin, le Amal, c'est. Il doit découler de cette conviction. Mais s'il y a une déconnexion entre le sens et la pratique, c'est normal qu'il n'y a pas de pratique. 17 fois par jour également, on dit Iyaka na'bud et Iyaka nasta'in, on en a parlé, la confiance en Allah, et on rappelle, on demande le doua le plus important, Ihdina as-sirat al-mustaqim, demande de guider, et autant de fois on demande à Allah la protection contre la perdition. Que jamais Ya Rabb ne m'égare du droit chemin après que tu m'aies mis dans le droit chemin. Et la demande d'Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est également une demande d'istiqamah, oh Allah, que je reste à la foi et que je meure dans l'iman. Et on avait dit en introduction, c'est le souhait de chaque musulman. Voici ainsi donc la puissance de Al-Fatiha qu'on avait essayé d'énoncer là l'année dernière. Et avec ça, il y a le Amin. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit Amin al-Fan? فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Quand vous dites Amin, et ça c'est spécifiquement quand on prie imam, si votre Amin coïncide avec celui des anges, vos péchés, en d'ailleurs, sont effacés. Tout ça, on l'obtient par la prière. Ce qu'on va voir aujourd'hui, le ruku'. Donc, on a vu jusqu'à Alhamdou, Amin. Après, les lectures de surat, ça relève plus du tafsir, hein, les lectures de ce qu'on va lire. Mais il serait bien quand même de travailler ça. On avait dit que ça fait partie des points essentiels. Le ruku'. Quand je vais dans la génuflexion et je dis Allah Akbar, on ne va plus commenter l'Allah Akbar. Parce que ça, on a déjà expliqué, c'est le même Allah Akbar du début de la salat. Et je vais dire donc, Subhan Rabbi al-Azim, qu'on peut traduire par gloire à mon Seigneur le Grand. Mais encore une fois, on le rappelle et on ne le rappellera jamais assez, aucune langue ne peut traduire réellement le sens de la langue arabe. La portée des mots, je veux dire. Parce que si je vous dis « kabir », ceux qui ont un minimum de langue arabe. Kabir, ça veut dire quoi, Nazim? Grand. Azim. Ah, voilà, là je suis un peu plus d'accord. Kabir, c'est grand, quand on dit Allahu Akbar. Mais ça ne veut pas dire que Kabir, il est moins grand que Azim. Parce que quand on dit Allahu Akbar, ce n'est pas un adjectif qui est diminué aucunement, la hawla. Abadan. C'est aussi fort. Mais Al-Azim, ça implique Ta'azim. Quand on dit Ta'azim Allah, c'est. Comment on peut dire? Il n'y a pas de terme. C'est s'imprégner de la grandeur d'Allah. Quand on dit Allahu Akbar, tu la testes. Mais quand on parle de Al-Azama, c'est le ressentir. Vous voyez un peu la nuance? Il y a une pas une interactivité, mais de mon cœur, je ressens cette grandeur. Et cette grandeur va se vérifier par At-Ta'a, par l'accomplissement de bonnes œuvres et l'éloignement du haram. Vous voyez la nuance entre les deux noms d'Allah, Al-Azim, tu ressens la grandeur d'Allah et tu le vis au quotidien. Et tu te dis, je ne désobéis pas à Al-Azim. Celui qui est Muttali'un alayhi, il y a au-dessus de moi, créateur des cieux et de la terre et ainsi de suite, et toutes les qualités d'Allah, les descriptions des qualités d'Allah. En ce moment, les surat Ibrahim, surat Ar-Ra'd. Remontez un peu hein, depuis le 7e, 8e Sifara, et si vous avez un petit peu de temps, vous avez le temps. Tirez du temps, pardon, je reprends. Tirez le temps pour, si on dit si vous avez le temps, on dit que non, on n'a pas le temps. Il faut se donner du temps pour le faire. Lisez les débuts de ces sourates. C'est Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra. On fait le tafsir, hein. Le frère est avec nous, c'est un clôtide, Barakallah Fik, pour ta venue. Et c'est rempli de ta'zimullah, justement. C'est exactement ce qui nous manque. C'est ce que certains peuvent appeler Tawhidullah fi Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la création. C'est-à-dire que Allah rappelle Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawdaha, et ainsi de suite, lorsqu'Allah parle de sa création, lorsqu'Allah parle Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad. Allah sait lorsqu'une dame, lorsqu'une mère, mais également de le règne animal, une femelle attend un petit, ou pour un être humain attend un enfant, et comment est-ce que cela prend forme, comment est-ce que cela se développe. Wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu miqdar. Et selon Ibn Kathir, quand est-ce que le fœtus, voilà, cherchez le mot, le fœtus, il va prendre vie. Et est-ce qu'il va continuer ou il ne va pas continuer? Ibn Kathir dit, et si ce fœtus meurt et qu'il ne complète pas le cycle, sache que c'est la décision d'Allah. Et ça émane de ce verset. Je vous invite à lire le tafsir d'Ibn Kathir en français. C'est absolument magnifique et c'est un réconfort également, c'est une parenthèse, pour une femme qui au cours de sa grossesse, au bout de 3-4 mois, il y a une perte. C'est des choses qui arrivent. Ben, ça, tout ça, c'est prédestiné, c'est prédit par Allah Azza wa Jal. Wahada min, ça vient de sa hikmah, de la sagesse divine. Donc, ces versets des sourates jusqu'à ces sibara, là on parle du 14e, du 13e sibara, c'est rempli de versets qui parlent de la puissance d'Allah. On en a besoin pour développer Al-Azim. Parce que si je vous dis qu'Allah c'est le créateur, il est magnifique, il est fort, il est puissant, pour qu'on complète, plus on va connaître, plus on va identifier, enfin, on va se rendre compte de la puissance de sa création, plus notre conception de Al-Azim va s'amplifier. Vous me suivez? Al-Azim, on a compris c'est quoi? Mais plus on va se rendre compte de la puissance de sa création, ce nom-là, il sera plus puissant. Et il sera plus fort, et il sera beaucoup plus évocateur pour nous. Ça veut dire que tout s'enchaîne. Le ilm, c'est à la base. Le ilm amène iman. Le ilm amène conviction yaqin. Et le ilm amène la dévotion et la concentration. Et ça t'amène vers la perfection de la foi. Et ça trace ton sirat al-mustaqim, ton droit chemin. Subhan Rabbi al-Azim, gloire à mon Seigneur, le grand, le puissant, qui est au-dessus de tous. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait reçu ce verset, fasabbih bismi rabbikal azim, qui peut m'identifier le verset dans quelle sourate? Ça c'est difficile ça. Enfin c'est pas difficile, mais il faut être assidu à la lecture de Al, cette sourate qui est bien de lien de Maghrib Isha, Al-Waqi'a. Fasabbih bismi rabbikal azim, ce verset était cité deux fois dans sourate Al-Waqi'a. Deux fois. Un seul verset. Pour moi, c'est facile, c'est écrit, donc je vous le dis. 74. Et la deuxième fois, c'est en clôture de la sourate. La sourate Al-Waqi'a se termine par Fasabbih bismi rabbikal azim. Pourquoi est-ce qu'Allah cite ce verset? Oui, fasabih bismi rabbika al-azim, glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand. Glorifie donc le nom de ton Seigneur. Fasabih subhana. Vous voyez, ce sont les mêmes mots. C'est glorifier, faire les louanges, les éloges, le porter haut. Ça c'est dans notre terme à nous, on dit ça. Le considérer toute sa force, sa puissance. Bismi rabbika al-azim, le très grand, c'est le même nom qu'on a dans subhana rabbil azim. Deux fois cité dans cette sourate. Et lorsque, on va voir pourquoi, et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a reçu ce verset, fasabih bismi rabbika al-azim, il a dit aux sahaba, ij'alouha fi ruku'ikum, lisez ce dhikr dans vos ruku'. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé aux sahaba, quand vous faites le ruku', lisez ce dhikr. Tout comme pour le sujoud, qu'on ne pourra pas aborder, quand a été révélé. Ah, c'est dans Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Le prophète alayhi salatu wassalam a demandé aux sahaba, lisez ce tasbih dans vos prosternations. Voilà comment est-ce que, quelle est l'origine, là on parle de subhan rabbi al-azim, l'origine de ce qu'on lit. Ça découle d'un verset du Coran. As-Sa'di rahimahullah, mufassir contemporain, dont le tafsir est vraiment accessible au non-ali. Ibn Kathir, ça reste complexe. Et encore, ce que nous avons traduit en Ibn Kathir, c'est un condensé. Du coup, les informations complexes n'ont pas été traduites, et tant mieux. As-Sa'di, je ne fais pas de publicité pour quiconque, son tafsir est traduit en français. Il est magnifique. Si on souhaite ce cheminement vers Allah, on souhaite la perfection de nos prières, on souhaite connaître Allah, on souhaite connaître Allah par le biais des versets, ça c'est un lien qui nous mène vers Allah, tafsir de As-Sa'di rahimahullah, c'est le tafsir qu'il nous faut, et rien d'autre. Pourquoi rien d'autre? Parce que rien d'autre n'a été traduit en français. Ça c'est une première raison, à part Ibn Kathir al-As-Sa'di, il y en a un autre, mais qui est un peu complexe et ça ne va pas droit au but. Ben As-Sa'di, c'est des tafsirs très simples. Vous avez déjà entendu parler de tafsir Jalalayn, qui est le tafsir muqarrar de tous les darul ulum. Ben As-Sa'di, c'est le même système de Jalalayn. Sauf que Jalalayn n'a pas été traduit en français, il me semble. Hein, d'accord? As-Sa'di, c'est le même principe, mais en plus, il apporte de la spiritualité. Et il apporte de iman billah. Hier, on s'est bloqué sur un verset, alors qu'on avait l'intention de développer autre chose dans surat al-Ra'd. On s'est bloqué sur un verset où Allah cite la création des cieux et de la terre. Il y a des versets qu'on retrouve dans beaucoup de ayat, dans beaucoup de surat, pardon. As-Sa'di fait un commentaire de iman billah qui découle de l'acceptation et de la compréhension de ce signe de la création d'Allah. Je vous assure, vous le lisez, vous dites Allahu Akbar, vous vous levez, vous dites Subhanallah. Comment est-ce que j'ai pu passer à côté de tel verset? C'est pour ça que tafsir d'As-Sa'di, pour moi, c'est la clé. Si on veut essayer d'avancer spirituellement, sans forcément l'accompagnement d'un alim, parce que c'est un verset qui, c'est un tafsir qui est facile, des phrases simples. Après qu'on ne comprend pas, on demande. Mais on ne pourra pas avoir un alim H24 avec nous. C'est pas possible. Et donc, quand il y a un truc qu'on ne comprend pas, on lui pose la question. Mais As-Sa'di reste accès. As-Sa'di a dit que ce verset était cité à deux reprises. Premièrement, après un long couplet de ayat qui rappelle qu'Allah a créé les cieux et la terre, qu'Allah nous a accordé tel bienfait, la nourriture, les fruits, les animaux, et ainsi de suite, tout ça c'est écrit pour nous. Bref, beaucoup de bienfaits. Et cela est clôturé par « Fasabbih bismi rabbika al-azim, glorifie donc le nom de ton Seigneur, le très grand ». Ça veut dire qu'en lisant ce nom d'Allah, il doit y avoir dans ton cœur en même temps « Ta'zimullah », mais en même temps, dites-moi le mot s'il vous plaît, « Shukr », la reconnaissance. Parce que c'est un verset qui clôture des versets de bienfaits. Ainsi donc, première piste, quand je lis Subhan Rabbi al-Azim dans ma génuflexion et que j'ai compris, le tout c'est pas de connaître la traduction, autrement alors on aurait écrit la traduction, on vous envoie par WhatsApp, pas besoin d'un programme pour ça. Ce qui est important c'est de faire le lien avec les versets et comment ensuite le vivre réellement. Gloire à mon Seigneur le Grand. Dans mon recours, je dois ressentir la puissance d'Allah, parce que ça c'est Asbab Nuzul, c'est content de révélation, c'est création des cieux et de la terre, de tout ça. Reconnais, quand je suis dans Subhan Rabbi al-Azim, les savants disent en plus, tu es dans une position figée. Quand tu es dans le recours, est-ce que tu peux bouger ton pied? Quand tu es dans le recours, est-ce que tu peux bouger ton bras? sans changer de position, sans dénaturer la position. Non, est-ce que tu peux bouger ta tête? À lever ta tête et tout, c'est mobile, c'est plus ou moins fixé. C'est-à-dire, est-ce que dans le ruku, tu peux regarder partout? Non, la vision aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment une position, là je parle sur le plan physique, de soumission où le corps est verrouillé. Le corps est verrouillé. Il n'y a rien qui peut se mouvoir ou autre chose. Le corps est verrouillé, mais le cœur doit s'ouvrir à son Seigneur. Le corps est verrouillé dans cette position, mais le cœur doit s'ouvrir en prenant conscience que cette position-là, qui n'est autorisée que devant Allah, je dois réaliser que je suis en train de glorifier le Créateur des cieux et de la terre, celui qui est Al-Azim et qui a tout créé, comme cela découle de ce verset de la loi Fera. Ce verset était cité également à la fin, en conclusion de la loi Fera, après qu'Allah, Azza wa Jalla, je n'ai pas en tête les derniers versets de la loi Fera, après qu'Allah ait cité Ashab al-Yamin, Al-Muqarrabin et les gens qui sont Al-Mukadhibin al-Dhalin. Al-Mukadhibin al-Dhalin, c'est-à-dire le jour de Qiyamah. Ce verset cite également conclusion des ahwal, des situations, des catégories de gens le jour de Qiyamah. Entre Al-Muqarrabin, ceux qui sont les plus proches d'Allah, c'est-à-dire ceux qui sont acceptés et eux ils vont aller dans la Jannah, les gens qui sont élus, et peut-être Allah seul le sait, on pourrait mettre dans cette catégorie ceux qui sont ressuscités selon le trône d'Allah. Allah va ja'alna minhum, c'est-à-dire l'élite du jour de Qiyamah, cité dans la fin de la Waqi'a, également les autres, mais également ceux qui sont dans l'égarement total, ceux qui sont perdus. Et à la fin, il est conclu par Fasabbih bismi rabbika al-azim, afin que là aussi on pense que rappelle-toi, afin que le croyant qui lit ce verset et lira les adhkar subhan rabbi al-azim, qu'il pense à ce moment où il sera devant son Seigneur et que c'est Allah qui décidera dans quel groupe il va te faire ressusciter. Dans quel groupe il va te ressusciter et quels sont les premiers visages que tu vas voir le jour de Qiyamah. Bienheureux, Allah m'a ja'alna minhum, ceux qui seront ressuscités مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Bien malheureux celui qui constatera qu'il est ressuscité avec les fasiqs, les pécheurs endurcis, ou ceux qui ne croyaient pas en Allah, ou comme dans le Coran Allah عز وجل rappelle الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Pour ceux qui ont consommé, qui ont utilisé l'usure et l'intérêt de ce monde, quelle sera l'humiliation? On ne parle pas de châtiment. Quand ils seront ressuscités, comment sera une situation d'humiliation totale? Ainsi, notre recours pense à cette situation de l'au-delà. Et ce qu'on doit rajouter également avec Subhan Rabbi al-Azim, mais on l'a plus ou moins développé, étudier le nom d'Allah al-Azim pour prendre plus de considération et pour trouver plus la connexion avec Allah lorsqu'on est en génuflexion. Et cela, nous avons bien les versets, par exemple le verset de la sourate Az-Zumar, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. L'étendue des cieux et de la terre, Allahu الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا. Ces cieux et ces terres, Allah va les plier. Le soleil et la lune, ça c'est la fille de hier, seront réunis, rassemblés et jetés dans l'enfer. Ça, ce seront les ahwal du Qiyamah. Ça te permet de réaliser que ce Seigneur, autant tu as intégré Allah, il est le plus grand créateur des cieux, de la terre, de l'univers, de tout ce système. Ça, on a compris. Deuxième étape dans Al-Azim, réalise que tout ce système qui a été créé par Allah sera détruit par l'ordre divin, par un souffle de Israfil, tout sera détruit. Et les choses qui ne sont pas détruites par le souffle de Israfil, ben c'est par le geste d'Allah, c'est par Allah seul, c'est comment yaliqu bi azza wa jalla, comment il le fera. Il décidera de jeter soleil, lune et les cieux seront pliés. Cela, tout ça, c'est le azamatullah, c'est la puissance d'Allah. Essaye d'évoquer ça, de le ressentir dans tes prières. Hada. Et les savants disent que dans cette position, réalise que le jour de Qiyamah, tu seras dans une position figée, où personne, là, yatakallamu nafsun, personne ne peut parler sans l'ordre d'Allah. Et dans un autre verset de la fin de Shu'ara, فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا. Al-Hams, certains savants disent des chuchotements. D'autres disent que non, Al-Hams, c'est après la première étape de la résurrection, lorsque les gens seront appelés vers le lieu du grand rassemblement. La tasma'u illa hamsa, des milliards et des milliards et des milliards d'individus, Allah seul sait l'étendue de sa création, pas un bruit. On entendra Al-Hams, c'est le bruit des pas. Des gens qui avancent vers la terre du jugement pour être jugés. Et là, qu'est-ce qui habite les cœurs? La crainte, l'angoisse, l'effroi. Et c'est ce genre de verset qu'on a besoin pour faire naître le sentiment et la compréhension de Al-Azim. Et donc, ainsi, réalise qu'à cet instant, on aura grandement besoin de notre Seigneur. Peut-être qu'il est temps d'y penser dans tes locaux. C'est l'occasion. D'y penser de l'Oukour, parce que le dhikr que tu lis de l'Oukour a été révélé dans ces circonstances. Est-ce que ça c'est clair? En conclusion, en synthèse, les ulama disent, le l'Oukour, position de soumission et d'humilité totale envers Allah Azza wa Jal. Position de grandeur, on pense à la grandeur de notre Seigneur, position de reconnaissance également par rapport au verset qu'on a situé. Et avec deux points qui sortent un peu de la compréhension, mais là on parle de amal, et c'est de réalise également que quand tu dis Subhana Rabbi al-Azim, tu es en train de lire une partie du dhikr qui était citée par le prophète alayhi salatu wassalam dans le dernier hadith de Bukhari qui était cité hier. Kalimatani khafifatani ala al-lisan, kalimatani khafifatani ala al-lisan, il y a deux paroles légère, facile à prononcer, thaqilatani fil mizan, lourde à la balance, et subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ça c'est très lourd à la balance le jour de Qiyamah. Quand tu dis subhan rabbi al-azim, tu as lu une partie de ce dhikr qui sera inshallah très lourd de notre balance le jour de Qiyamah. Voilà ce qu'Allah nous donne en plus de cette relation, ce qu'Allah nous donne en termes de hasanat, de rétribution et de récompense. Et dernier conseil concernant Subhan Rabbi al-Azim, essaie de le lire le plus possible. En dehors des namaz faras, bien sûr. Quand tu fais la salat de l'imam, ça se limitera à 3 ou à 5. Mais dans le tahajjud, dans le recours de notre salat de tahajjud, on ne doit pas se limiter à 3 fois Subhan Rabbi al-Azim. Mais on doit le dire au maximum jusqu'à ce que ton cœur commence à frémir. Dis Subhan Rabbi al-Azim, dis-le 5 fois, dis-le 15 fois, dis-le 20 fois, dis-le 50 fois. Pareil pour Subhan Rabbi al-A'la de Sajida. Ikhwani fillah, le but n'est pas de faire 12 rakats de tahajjud. Le prophète faisait 12. Mais ce n'est pas un challenge ça. Certes, si tu l'as fait, tu as fait une sunnah, c'est très bien. Mais ce n'est pas une consécration. Si je lis 12, fais 12 à 4 avec wa al-'asr inna atainaka al-kawthar, et idha ja'a nasrullahi wal-fath wa qul wallahu ahad, et ainsi de suite. Entre nous. Ça va. C'est beaucoup de gestuels là. C'est beaucoup de recours, sajda, tac, 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 tac. Mais il y a peu de cœur dedans, oui ou non? Tiens, sujet encore. Uthman ibn Affan, au début, il lisait presque un khatm al-Qur'an en une nuit. Avec l'expérience et les joies qui passent, il diminuait le nombre de versets jusqu'à se limiter à qul huwallahu ahad parfois. Mais le nombre de temps passé de la prière de la nuit était le même, hein, attention. C'était la nuit était passée. Mais lisez moins, mais le répétez plus souvent avec cœur. Se rendez compte que le but n'est pas de lire 3000 ayat. Le but c'est d'en lire quelques-uns, mais avec conviction, yaqin, fermeté, certitude, tadabbur. Afala et tadabbaroun al-Qur'an. Qu'Allah nous donne la possibilité d'arriver vers ce niveau de pratique. Ainsi donc, dans ton recours de salat tahajjud, lis le maximum de Subhan Rabbi al-A'la. Et pareil, dans le sujda, lis le maximum de Subhan Rabbi al-A'la. Et pour en plus, essayons de varier un petit peu également de adhkar, principalement de namaz nafil. Subhuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh, subhanallah yubihamdihi, subhanallah al-azim. Ce sont des adhkar qu'on peut lire également dans ces positions. Dans le sujoud, parce que je sais, en étant clairvoyant, on ne pourra pas démarrer la prosternation. Dans le sujoud, ne lis pas que Subhan Rabbi al-A'la. Je parle de namaz tahajjud, namaz nafil. Hein. Ne te limite pas Subhan Rabbi al-A'la. Il faut réaliser que dans le sujoud, c'est la position où tu es le plus proche d'Allah. Ça, on l'avait évoqué une fois. Il n'y a pas position où l'homme est plus proche d'Allah que de la prosternation. Alors que physiquement, ce n'est pas logique. Même si ce n'est pas une question de 1m70 ou 1m80 ou moins, ce n'est pas que je suis debout. Je suis plus proche d'Allah, c'est le train d'Allah, il y a quelle distance. Et que quand je suis au ras du sol, je suis plus loin. La logique mathématique et scientifique, c'est ça. Ben, tu es plus proche du sol, donc tu es plus loin du ciel, non. Petite logique humaine. Mais quand tu dis Subhan Rabbi al-A'la, il y a l'opposition entre la situation, entre la position, tu es sur le sol, et tu dis Allah est le plus élevé. Ça doit faire naître quoi ça? La soumission. Et que tu te remets à ta place de makhlouq. Moi je suis sur le sol, mais je dis que mon Seigneur il est al-mustawa al-arsh, il est le plus élevé al-a'la. Et donc dans ton sujoud, tu es le plus proche d'Allah. Conseil, faites istighfar de vos sujoud, de le sijda, lisez abondamment la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Dans vos sujoud de tahajjud, je répète, lisez abondamment أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. Et à un moment donné, arriver jusqu'à dire Astaghfirullah, 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 mais jusqu'à ce que les larmes coulent de vos yeux. Et ça viendra. Ça viendra parce que si tu dis ce istighfar avec sincérité de sujoud, en même temps pense à tes manquements depuis Ramadan 2017. Pense à toutes les promesses que tu as fait à Allah. Que Ya Allah, je te promets, je vais faire ça. Ya Allah, je te promets que c'est fini. Ce péché, je demandais Tawba maaf, Ya Rabbad. Quelques mois après, je suis retombé dedans. Ou parfois même quelques jours après. Pense comment tu as trahi tes engagements avec ton Seigneur. Pense à ce cumul de péchés qui est de te livrer d'action. Et tu dis Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. En pensant à ces péchés, je vous assure, nous avons tous un cœur. Et ce cœur aime Allah. Ce cœur a été créé par Allah. Et chaque membre de notre corps ne demande qu'à obéir à Allah. Mais si nous les dévions ailleurs, ils nous suivent. Mais le jour de Qiyama, ils nous feront des reproches. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Jour de Qiyama, les yeux vont témoigner. Comment les yeux témoignent? Qudrat d'Allah. On parle de Yawmiddin. Malik Yawmiddin, un monde parallèle. Et ce monde parallèle, qui le contrôle? Al-Malik, le maître. Tout est dans ses mains. Les yeux, les oreilles, les membres du corps. Ya Rab, il nous a entraînés vers le haram. Alors qu'on n'a pas été créé pour ça. Mais il nous a emmenés vers le haram. Et cela provoquera le azab, le châtiment. Donc, le cœur, dans sa fitra, il veut se soumettre à Allah. Provoque-le. Réunis les conditions. Et pense à tes péchés en disant astaghfirullah abondamment. S'il faut faire, nous, 30 minutes dans 2 rakats, fais-le. Contente-toi de 2 rakats de tahajjud en 30 minutes. Mais avec cette intensité, cette puissance et ces remords de tes sujouds, et en réalisant que là je suis le plus proche d'Allah, pourquoi quitter cette position? Pourquoi revenir assis alors que là je suis le plus proche? Tout en sachant que la salat c'est un ensemble bien sûr, mais cette connexion de cœur, et comme on dit, faire qadar de cette position, et à un moment donné, ce cœur finira par ressentir. Provoque ton cœur, fais renaître la flamme qui y est, qu'Allah Rabbul Izzah de sa clémence et la rahma qui descend de ce mois béni nous donne à nous tous, j'ai dit à moi premier, parce que c'est un effort que nous avons tous besoin de faire et que nous n'avons pas complété, peut-être pas commencé, qu'elle donne la possibilité de vivre ces moments intenses de foi, de soumission, de istislam, de ressentir cette douceur de foi que les sahaba ressentaient quand ils priaient, que nos prières deviennent junaïd, que notre prière devienne vraiment une connexion avec Allah Azza wa Jal. Que lorsque je dis Allahu Akbar, mon cœur s'envole et je pense à mon Seigneur comme si j'étais devant lui. Ça, c'est quelque chose qui est à la portée de chaque ummati, de chaque musulman jusqu'au Qiyama. Ne nous en privons pas. Pour cela, on ne le rappellera jamais assez. Étudions les noms d'Allah, étudions le Fatiha, le minimum de ce qu'on lit dans la salat. On accomplit les bonnes actions, on s'éloigne des péchés pour développer la taqwa. Et quand on fait l'iftar, on casse carême, ou quand on fait le suhur, doua est accepté des litières de la nuit. Les malaïkas sont là, ils font doua pour toi. Rupture du jeûne, le doua du jeûne t'accepte. Ya Rabb, ouvre mon cœur. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Waffiqni li kulli khair. Oh Allah, ouvre mon cœur, que ton amour pénètre mon cœur, que la crainte d'Allah entre enfin dans mon cœur, que le yaqin et la conviction rentrent dans mon cœur. Donne-moi les qualités intérieures. Demandons ça, ça doit être nos doigts prioritaires, ça, de sehri, de suhur, de l'iftar. Parce que c'est, si Allah nous l'a donné, on devient qad aflaha al-mu'minun. On devient hudan lil-muttaqin, on devient les pieux, on devient wa'ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, on devient tous les qualificatifs qui décrivent les gens les plus aimés par Allah, qu'Allah nous accepte notre envie de comprendre. On a pu au moins revoir un peu les bases, se rappeler, parce qu'un rappel par an, c'est pas suffisant, mais on a avancé dans Subhan Rabbi al-Azim. Si Allah nous donne longue vie, inshallah, qu'Allah nous accorde longue vie, fait ta'a, de l'obéissance, on verra. L'année prochaine, peut-être, Sami'a Allahu liman hamidahu. Allah a entendu celui qui a fait ses éloges. Et on se rendra compte que toutes les louanges d'Allah que j'ai fait jusqu'à ce recours, quand je me relève et que je retrouve la position initiale du qiyam, tout ce temps-là, Allah m'écoutait attentivement. Et quand je dis Sami Allahu, j'atteste qu'Allah m'a bien écouté, entendu. Allah a écouté les louanges. Ainsi donc, je te pose la question, est-ce que j'ai fait les louanges d'Allah correctement? C'est-à-dire avec mon cœur. Est-ce que je l'ai fait avec respect? Le respect, c'est pas de dire Subhan avec le ha de cette façon, qui n'est pas un Subhan, c'est pas le makharij al-huruf. C'est la présence de cœur dans ces adhkars. C'est ça le respect des louanges d'Allah Azza wa Jal. C'est là dans le permis, on verra les différentes variantes entre Rabbana, lakal hamd, wa lakal hamd, et Allahumma Rabbana, lakal hamd, et Allahumma Rabbana, wa lakal hamd, les variantes, et que tout est autorisé, tout est jaiz, et tout existe, et qu'il est bien de varier. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire dans cette position? Et le summum du summum du summum, je vous dis ce qu'il nous reste à faire dans les 10 prochaines années, la prosternation, le sujoud, le summum, c'est le nectar de la prière. C'est le nectar de la prière, et ce qui nous restera également à parcourir, c'est le doua entre les deux. Sijda. Ça, si j'avais 5 minutes, je l'aurais mis, ça. Il faut, je vous dis, juste dites-le. En deux sijda, dites Rabbi Firli, Rabbi Firli. Je vous assure, bon nombre de croyants de Moussalli ne savent pas que le prophète avait l'habitude de lire entre les deux sujoud, quand on s'assoit entre les deux sijda, Rabbi Firli, Rabbi Firli, deux fois. Mettons-le en pratique. Rabbi Firli, c'est facile à retenir. On prend l'habitude, c'est un moment d'acceptation de doua. Et si on fait namaz tahajjud, donc on a du temps pour nous-mêmes, le prophète disait Rabbi Firli, Warhamni, Wa'afini. Il y a une autre version, celle-là c'est de Al-Nasai, Allahumma gfirli, Warhamni, Wahdini, Wajburni, Wa'afini, Warzuqni, Warfa'ni. Bien sûr, ça s'est compris seul, mais chacune de ces doua's, c'est extrêmement puissant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait autant de temps, écoutez le terme, kana yaqulu bayna sajdatayn, ce qui est cité, wa yajlisu biqadri sujudihi. Il passait le même temps dans la position assise entre deux sijda que dans le sijda. Et Allah seul sait comment les sijda, le prophète était longue. Ça, on a intégré. Mais on a oublié. C'est comme s'il y a des positions de la salah, on a occulté complètement. Mais ça, c'est important au moment d'acceptation de doua. Donc, ça aussi, Inch'Allah, Allah donne tawfiq de le faire. Et at-tashahud, ça, c'est très long. Le tafsir, le commentaire de at-tashahud. Et enfin, clôturé par le salat ala nabi. Le durud sharif, Allahumma salli ala Muhammad. Le magnifique Allahumma inni dhalamtu nafsi qui a été annoncé par le prophète à la demande de Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, et puis un jour dans un pays le doua ikunut. Le doua ikunut Allahumma nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastadik. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Moi en premier. J'ai revu le doua ikunut ce matin et j'ai appris des choses que je ne savais pas. Quand on voit les grands savants, pas le niveau des vrais, les grands ulama, ceux qui ont écrit les livres, hein, ceux qui ont écrit les kitab. Et que là, on parle des tabi'in, atba' tabi'in, des générations d'Ibn Kathir, de Qurtubi, d'Abu Hanifa, de Shafi'i, les vrais savants. Et quand ils écrivent, ils te donnent une explication de doua et kunut, tu te dis que on a énormément à apprendre. Personne ne peut se dire que je connais maintenant. Mais que j'ai fait namaz, moi. Mais fais bien namaz. Tu ne connais rien. Continuons à apprendre nos prières. Qu'Allah nous accepte. Wa ma tawfiq illa billah. Subhanallah bihamdi. Subhanak Allahumma. Wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.